Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, quelles sont les dernières news du cloud et du DevOps en ce mois de septembre 2023? Alors, on a au programme des fails dans Minio, un chamboulement de taille sur Terraform, de l'open hardware et un nouveau système de stockage chez Scaleway. Tout ça, on va le voir dans cet épisode de podcast.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bienvenue à toi, cher compagnon, dans Actu DevOps, ton émission de veille, cloud et DevOps mensuelle. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin, puisqu'on t'a préparé une sélection d'outils pour t'aider dans ton quotidien d'Ops, de Dev ou de DevOps, pour ceux qui utilisent encore ce terme. Avec moi pour parler Actu, aujourd'hui j'ai Nicolas. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir à tous.
Et je précise pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, qui nous entendent en podcast, que Nicolas a des amis à quatre pattes, des chiens, donc qui pourraient faire du bruit. Et ceux qui sont sur YouTube voient la superbe bouille d'un des chiens. Et il y a aussi avec nous ce soir René. Bonsoir René.
Bonsoir, bonsoir à toutes et tous.
Et toi, tu n'as pas d'amis à quatre pattes chez
non.
toi?
Non.
Non.
Je manque un peu de place pour ça.
Ah. Il va falloir t'y mettre. Hein.
Mais je comprends René, moi aussi je manque de place. Enfin, je manque pas de place, mais je manque surtout de verdure chez moi. Un jour peut-être.
C'est pour ça que j'en ai pris des tout petits qui tiennent dans la poche.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, alors on va commencer par la traditionnelle, le traditionnel courrier des auditrices et auditeurs. Et déjà, je tiens à vous remercier toutes et tous pour vos messages, puisque vous avez inondé YouTube de messages, puisque depuis le dernier épisode, il y en a eu tellement que j'arrive plus à suivre et j'arrive plus à répondre à tout le monde. Donc bravo, merci. Par contre, on n'a toujours pas de messages sur Apple Podcasts. Je déprime un peu, mais c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous lire un message que Solio l'anglais nous a laissé sur YouTube sur l'épisode Radio DevOps 34 qui parlait de passion et de défis, des avantages et des inconvénients des métiers DevOps. Alors, c'est un message un peu plus long que d'habitude. Donc, il nous dit « Il y a un discours qui est revenu plusieurs fois à propos d'une astreinte pour les développeurs. Ils développent du code et ils assument. » Ça, c'est le message dont il parle. « Je ne partage pas ce point de vue. Normalement, dans une boîte normale, tous les développements sont testés et validés par une équipe de QA, une personne, un chef de projet. Que ce soit le cas ou non, les développeurs n'ont pas assumé d'éventuels problèmes sur la prod, car les tickets Jira, Redmine, etc. ont été validés. Cela n'empêche pas, par contre, de prévoir leur présence pour assister et aider la production. Je doute cependant de l'utilité d'une astreinte, les mises en production sont généralement prévues sur les heures ouvrées, sauf le dernier jour de la semaine. » Je suis désolé pour ma addiction, il fait chaud. D'ailleurs, je me permets de boire. Nous sommes mi-septembre et il fait encore très très chaud. Alors, j'ai sélectionné ce message parce que tu vas le comprendre. En fait, pour moi, il est symptomatique d'une certaine vision de la production et du métier d'ops et du métier de dev. Et donc du coup j'ai répondu à Solio en message sur YouTube, mais je vais faire une réponse là aussi, puis on va pouvoir en profiter pour discuter avec René et Nicolas. Donc Solio, en effet, nous sommes plusieurs à souhaiter que les équipes de développement, les devs, fassent des astreintes en plus des ops, puisque habituellement c'est plutôt les ops qui en font, les personnes qui s'occupent de l'exploitation de la production. Donc, les boîtes normales, pour moi, ça n'existe pas. Elles ont à peu près toutes leurs spécificités. Elles sont plus ou moins grandes. Elles ont parfois, en effet, des services de QA, parfois pas, etc. De toute façon, Qu'on ait ou pas des QA, les tests, ça fait pas tout. Et ce que les devs ont tendance à oublier, en fait, c'est qu'un test qui est fait sur un jeu de tests réduit, c'est pas vraiment la même chose que gérer une prod avec des milliers, voire parfois des dizaines de milliers d'utilisateurs. En effet, tu peux faire un test sur ton application, sur tes environnements de développement ou de staging, mais en fait, rien ne vaut la prod pour tester la charge. Et il y a beaucoup de problèmes qui viennent de là. Donc, quand tu dis « les développeurs n'ont pas assumé d'éventuels problèmes sur la prod car les tickets ont été validés », pour moi, en fait, c'est un anti-pattern DevOps. On est sur une chaîne DevOps, on est sur un podcast DevOps, donc on va parler de ça. Pour moi, quand on est dans un mouvement DevOps, on partage la responsabilité. Ça veut dire que les devs, les ops, ils sont ensemble dans le même bateau. C'est pas chacun c'est pas chacun dans son coin, c'est non, on partage la réussite et les échecs du projet. C'est pour ça qu'on doit travailler ensemble et pas se dire voilà, le ticket il a été validé et c'est plus mon problème. C'est un peu comme dire ça marche sur ma machine, sauf que ta machine, on peut pas l'envoyer en prod. Enfin, t'auras compris l'idée. Ça, c'est ce que j'enseigne justement dans une de mes formations. La formation, c'est DevOps Mindset. Tu trouveras le lien en description ou en fiche d'information sur YouTube. Bon, je suis pas là pour faire ma promo, mais en fait, pour te dire, moi, j'ai longtemps fait des astreintes pour Monoprix, qui est plutôt un gros client, chez Casino. Parce que moi, j'étais ops chez Casino et on avait comme client les devs de Monoprix. Et je peux te dire que même les applis qui étaient testées avec des tickets validés, ça n'empêchait pas d'avoir des problèmes de performance ou des bugs en production. Parce qu'on a aussi des bugs. Des choses, enfin, des tests auxquels on n'avait pas pensé. Donc, même si un ops en astreinte, il peut faire le pompier, remettre l'application en route, enfin changer des choses, il a parfois, voire souvent, besoin de l'aide d'un dev, parce que l'ops, lui, autant il connaît les problèmes de charge, autant il a des systèmes de supervision, autant lui, bah il connaît pas le code, il sait pas où aller chercher l'information, il peut juste estimer l'endroit où il y a un problème. Mais il peut pas le voir, le corriger, ou parfois même, il y a des vrais soucis, ça m'est déjà arrivé, où en fait, c'est la donnée qui pose problème, et la donnée, il faut la corriger. Et ça, un ops, il ne peut pas la corriger parce qu'il n'a pas la connaissance métier du logiciel. D'autre part, tu parles de déploiement, mais en fait, l'astreinte, ça ne s'arrête pas uniquement au déploiement ou à la mise en production, il y a l'exploitation courante, hors des heures de bureau, des heures ouvrées, et on n'est jamais à l'abri d'un problème dans ces moments-là. C'est pour ça qu'on a des astreintes. Et donc, c'est pour ça que je fais partie des gens, et je pense que c'est même pas moi qui ai dit la phrase qui t'a fait tilter, mais je fais partie de ces gens-là qui pensent que... je te donne la parole après, Nicolas. Mais Nicolas dit qu'il fait aussi partie de ces gens-là. Ça y est, je suis perdu dans ma réponse. Ouais, je fais partie de ces gens qui pensent qu'il est souhaitable quand même qu'on ait des astreintes doublées, donc un couple souvent, ops et dev, qui peuvent gérer ensemble des problèmes. L'ops, l'ops, il est en première ligne, il n'y a pas de problème, c'est lui qui prend l'intégralité des demandes, mais parfois il a besoin d'un backup pour pouvoir l'aider. Et donc, c'est pour ça que on pense que les devs doivent aussi faire des astreintes. Si tu penses que les devs doivent pas faire des astreintes, ça veut dire que tu penses qu'en fait, il devrait pas y avoir d'astreintes. Alors ça se défend parfaitement, et ça, on peut en parler. Mais aujourd'hui, en tout cas, je pense dans le mouvement DevOps qu'un ops seul à faire des astreintes, c'est plus souhaitable. Ça, on en a longuement parlé dans Radio DevOps numéro 26. Le nom de l'épisode, c'est quoi la production, l'exploitation et les astreintes en informatique. Tu trouveras le lien en description ou dans la fiche information sur YouTube. Alors moi, je t'encourage à le voir, et si tu l'as déjà vu, à le revoir, parce que ça t'éclairera peut-être sur certaines choses. Et si tu veux, on continue à en discuter sur les commentaires YouTube, voire sur le forum des compagnons, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. J'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais laisser la parole à Nicolas, puisque tu t'es manifesté pendant ma réponse.
Oui, justement, je pense que c'était moi qui insistais sur le fait que c'était important que les développeurs soient d'astreinte aussi. Et je vais répondre de deux manières différentes, parce que j'ai eu l'occasion de tester ces astreintes en production dans deux entreprises différentes. Une première, j'avais aucune connaissance sur le code et j'étais bien incapable de corriger quoi que ce soit. Et les développeurs poussaient toujours pour que les mises à jour soient faites quand elles étaient prêtes, et souvent le vendredi. Donc j'ai souvent freiné des cas de fer, et un jour on m'a dit « mais non, arrête, c'est laisse les mettre en production le vendredi. Par contre, demande à ce qu'il y ait une personne qui soit d'astreinte en cas de problème. » Parce qu'il y a une partie des problèmes que les ops peuvent résoudre, donc les ops en tant qu'administrateurs système qui connaissent parfaitement le système, comment on déploie, etc., qui connaissent une partie du fonctionnement de l'application, mais qui sont totalement incapables de modifier le code, parce que assez souvent, ils n'ont même pas les droits sur la partie gestion de version, CI, déploiement, etc. Et en fait, d'avoir laissé la possibilité de déployer le vendredi, et surtout sous condition d'astreinte, ça a responsabilisé les développeurs qui, lors d'une première mise en prod un vendredi, ça a tout cassé, donc ils ont passé une partie de leur week-end à réparer. Si on avait fait ce déploiement sans astreinte de développement, qui est-ce qui galérait tout le week-end? C'était Bibi. Alors que là, c'était vraiment de leur responsabilité, et comme il y avait une chaîne de CI/CD complète, ils pouvaient redéployer sans la personne qui était d'astreinte d'administration système pour ce week-end-là. Donc le premier truc, c'est vraiment ça, c'est responsabiliser les équipes et partager les galères aussi. C'est les mauvais côtés du partage, mais comme dans beaucoup de choses, quand on partage tout. Et la deuxième réponse que je vais faire, c'est dans mon entreprise actuelle CGWire, en fait, on n'a pas réellement d'astreinte. Par contre, on fait des mises à jour, communément chez nous, c'est les mardis soirs, on fait la mise à jour de tous nos clients en même temps. Et en fait, c'est moi qui fais ce déploiement-là. Ça a bien été testé sur plusieurs instances, puisque on a une spécificité, c'est qu'on a du monotenant, donc on a une instance dédiée par client. Et en fait, le développeur qui est en charge des releases et qui connaît parfaitement tout le code, lui, il est pas totalement d'astreinte, mais si jamais j'ai une galère, je peux l'appeler. Et ça m'est déjà arrivé une ou deux fois où j'étais totalement bloqué. Et pourtant, j'ai les connaissances, puisque le back-end est fait en Python, en Flask, et je connais assez bien les deux, mais j'ai pas la connaissance, la même connaissance que lui sur le framework et sur le langage. Lui, sur un bug comme ça, en un claquement de doigts, il est capable de trouver d'où est-ce que ça vient et de corriger rapidement le problème. Moi, le temps que je comprenne ce qu'il a fait, on est arrivé à 3h du matin, et le lendemain, les clients sont bloqués. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite, et en fait, c'est pas grand chose, parce que c'est du travail d'équipe, et finalement, quand ça se passe mal, on réagit toujours mieux à deux plutôt qu'un seul devant le problème. On travaille toujours mieux à deux, et je trouve que les méthodes DevOps là prennent tout leur sens, parce que on galère à deux, et en général on trouve pourquoi il y a ce problème en particulier, on le corrige rapidement. Après, certaines fois ça m'est arrivé d'avoir un truc hyper bloquant et de pouvoir me débrouiller tout seul, mais c'est pas systématique. Donc je pense que c'est bien qu'il y ait un partage de responsabilités. Et si cette personne-là veut pas être d'astreinte, il n'y a pas de problème. Alors dans ce cas-là, pourquoi il y a des admin 6 qui sont d'astreinte? Parce que si finalement l'application est plantée et que c'est pas grave pour lui, dans ce cas-là, c'est pas grave que l'application soit plantée. Si ça peut attendre qu'il revienne le lendemain matin, ça peut aussi attendre le lendemain matin que les ops reviennent. C'est vraiment du partage. Bon, faut voir le bon côté des choses, hein. C'est l'astreinte, c'est rémunéré, donc ça lui fera des sous. Et toi, René, qu'est-ce que t'en penses? Tu rêves d'être d'astreinte en tant que développeur?
Je suis trop vieux pour ça maintenant. après, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce que t'as dit, hein. Je pense que t'as tout dit. Après, c'est souvent le développeur qui a la meilleure connaissance. Et aujourd'hui, avec les microservices et les applications qui sont de plus en plus complexes, je pense que ça peut même être vicieux des fois. Ce qu'on regarde, c'est pas forcément trouver la root cause du problème, c'est pas forcément évident. Et l'aide d'un développeur qui sait pertinemment ce qui est fait par l'application, c'est mon avis fondamental dès que ça devient compliqué.
Eh ben, merci à vous deux. J'espère en tout cas que Solio, notre réponse t'a éclairé sur cet avis. Si tu veux, on continue d'en discuter sur les commentaires YouTube ou sur le forum des compagnons. Ce serait vraiment le lieu le plus adéquat. Alors, toi aussi qui nous écoutes, tu peux nous laisser un message soit sur YouTube, tu l'auras compris, soit sur le forum des compagnons, mais surtout sur Apple Podcast. J'aimerais bien avoir des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast. Apparemment, ça a l'air de pousser les podcasts quand il y a des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, tu peux. Sur Podcast Addict aussi, tu peux laisser des messages. Donc, profites-en. Je crois qu'on peut pas sur Spotify et autres. En tout cas, on peut laisser des étoiles sur Spotify. Donc, n'hésite pas. Il y a le jingle qui t'encourage à le faire, mais c'est bien de le dire. De laisser des petites étoiles et de commenter notre travail pour voir si ça t'intéresse, en tout cas en tant qu'auditeur et auditrice. Alors, on va commencer par une petite news. Enfin, je dis petite, mais je sais pas. Peut-être que c'est une grosse news. René, tu vas nous le dire.
Je vais essayer de la faire assez relativement courte. En fait, ça a suscité mon intérêt parce que c'est un logiciel que j'ai utilisé par le passé. Donc, il s'agit de Minayo, qui fournit en fait un stockage compatible S3 et on peut installer ça on-premise. Et à première vue, il y a eu deux CVE assez costauds. En mars, à première vue. Donc c'est quand même assez vieux, mais on sait jamais. Il faut penser à mettre à jour. Et apparemment, la CVE, elle a été découverte suite à une investigation par une team de réponse à incident. Et donc on apprend en gros qu'il y a eu une première phase au niveau de l'attaquant qui a fait du social engineering pour convaincre un ingénieur DevOps de downgrader la version de Minayo sur une version qui possédait ces deux vulnérabilités. Et dans un premier cas, il y a la première vulnérabilité qui a été utilisée pour récupérer les credentials fondamentales de Minayo. Et à partir de là, la deuxième CVE a été installée pour ensuite installer une version qu'on peut trouver sur Internet, une version de Minayo qui comporte une backdoor. Une prise sous contrôle total de l'environnement. Je vous laisse aller voir le lien si ça vous intéresse, si vous voulez plus de détails, puisque voilà, j'essaie de résumer un petit peu ici. Et aux dernières nouvelles, il y a beaucoup de gens qui exposent du Minayo en public sur Internet, ce qui pour moi me paraît un peu bizarre, quoi. Mais apparemment, 30 au stat, ils ont scanné seulement 38% de ces instances-là, donc il y en avait 52 125, n'étaient pas vulnérables à ces deux CVE. Voilà, ça donne une idée. Donc, n'exposez pas vos services si c'est pas nécessaire, et puis, comme on le dit souvent, faire des mises à jour. Voilà, c'est, je pense, à peu près résumé cette petite news. Je laisse la main à Nicolas si tu veux réagir.
Oui, ça rejoint un petit peu le sujet qu'on avait avant. C'est là, dans l'occurrence, on a une CVE, c'est bien un développeur qui va pouvoir la corriger et les admin-sys qui vont pouvoir la déployer. Donc encore une fois, DevOps, c'est de la collaboration et on revient, on en parle souvent des failles qu'il y a, c'est surveiller les CVE et patcher dès que c'est possible. Et alors par contre, ouvrir Minayo sur Internet, oui, c'est logique puisque c'est de l'object storage. Donc à un moment donné, peut-être qu'on veut mettre ça à disposition sur Internet pour que nos utilisateurs puissent y aller. Donc, tout ce qui est mis directement sur Internet, faites très attention parce que c'est par là que les attaquants vont rentrer. Et toi, Christophe, est-ce que tu as eu une faille sur ton Minayo déployé sur Internet ?
Moi, je n'utilise pas de Minayo. En fait, j'utilise les solutions S3 de Scaleway ou de OVH. Donc, Je sais que j'ai des collègues qui utilisent Minio, mais je ne sais pas s'ils ont été exposés. J'imagine que oui, comme tout le monde. J'ai pas grand-chose à dire puisque vous avez tout dit. Hein. Quand il y a des CVE ou des problèmes de sécurité, il faut patcher régulièrement. Mis à part que Minio, c'est un produit que j'ai en ligne de mire depuis un long moment. Parce que justement, pour compléter les fameux S3 de Scalway, OVH, etc., avoir un propre sa propre instance S3 sur des serveurs qui peuvent être conditionnés ou quoi, ou hébergés dans un troisième cloud provider, ça peut être intéressant. Bon, on s'écarte un peu du sujet, mais en tout cas, le truc qu'il faut, c'est quand on utilise un outil, en effet, regarder toujours régulièrement les patchs de sécurité, être informé, potentiellement mettre en place dans les intégrations continues des checks pour voir s'il y a des nouvelles versions et puis créer des issues automatiquement, voire même des merge requests. Il y a des outils pour ça. Je sais que j'en ai pas utilisé, mais je sais que ça existe. Ça fait partie de nos envies, en tout cas sur nos propres dépôts.
Il y a aussi des outils qui scannent automatiquement certains logiciels auxquels vous êtes abonné, qui vous donnent toutes les CVE. On en a déjà parlé lors d'épisodes précédents, et moi je le fais, et du coup ça me permet de faire une veille sur la sécurité de mes infras. Alors ça prend du temps, mais ça prendra toujours moins de temps que de réparer votre infra une fois qu'elle aura été bien pommée, quoi.
Bah, là aussi ça peut peut-être avoir un support, enfin payer du support. Je pense que là ça peut aussi avoir son avantage, parce qu'une des difficultés de Minio, c'est que ça évolue très souvent, il y a beaucoup de versions, et je pense que dans ce cas là avoir du support, il y a probablement le support qui contacte les clients pour leur dire attention, là on a vraiment deux CVE vraiment critiques, et donc ça fait le warning.
Et surtout, le support va aussi vous donner la manière de faire la mise à jour d'une version à une autre.
Ok, merci. Nicolas, il y a quelque chose qui vient d'apparaître et de popper dans le fil de l'épisode. Tu viens de rajouter une news, c'est ça ? Est-ce que tu veux la traiter ?
Oui. Bah, ça va être très très rapide. On avait parlé d'une faille qu'il y avait eu sur LastPass, et ça me fait penser un petit peu à la CVE Minio. Donc on a eu un petit peu le fin mot de l'histoire. Alors je vous conseille d'aller lire l'article qu'il y aura dans les commentaires. Il est assez intéressant. Mais le plus gros de la faille, ça a été un administrateur système qui avait accès à une version vraiment très très restreinte de l'infrastructure. Donc il y avait très peu de personnes à y avoir accès. Et en fait, il avait un agent Plex. Donc Plex, c'est un truc qui vous permet de partager votre musique, vos films, etc. sur sa workstation. Donc la sécurité, ça se joue à tous les niveaux, et y compris sur le poste de travail de vos développeurs, de vos administrateurs système. Toute personne qui peut avoir accès à la prod, il faut que chacun fasse très attention à ce qui peut se passer sur sa machine. Parce que là, quand on regarde la description de ce qui s'est passé, ça glace le sang. J'en viens à me dire que la seule solution, c'est d'avoir une machine totalement à part qui est connectée à un VPN et qui n'a pas accès à Internet. Mais bon, je vais reprendre un Prozac et essayera un petit peu mieux après. Voilà, pour cette faille LastPass, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose.
Alors pas moi, parce qu'on s'est déjà exprimé du coup sur les CVE, mais merci du coup de la mise à jour. Toi, René, qu'est-ce que tu veux rajouter là-dessus ?
Pardon, non, rien de spécial. Voilà, si ce n'est que j'ai l'impression que ça dure depuis quand même longtemps, cette histoire.
Et si vous avez utilisé LastPass, récupérez la liste des credentials que vous avez mis dedans et changez-les, parce que vous allez vous faire pirater dans pas longtemps.
Très bien, merci. Alors, Nicolas... tu ne peux pas te brancher en Ethernet. Tant pis, on va supporter Ça, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème pour le podcast. Juste, bah, je fais un aparté pour l'auditeur et l'auditrice qui nous écoutent. En fait, le son de Nicolas, il bug un peu. Mais comme on utilise un super logiciel qui s'appelle Riverside, je le place ici parce que j'adore ce logiciel, même s'il n'est pas libre, bah, son son et sa vidéo est enregistré sur son navigateur, donc il ne devrait pas y avoir de coupure. Par contre, pour René et moi, on a des coupures, mais c'est pas grave.
Désolé, je suis dans le jardin.
Ah, bah, écoute, ton jardin manque un peu de verdure, je trouve. Bon.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Pour la suite, c'est moi qui vais vous parler de Scaleway. Ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. Donc, je vais vous parler de l'Interplanetary File System, ou IPFS pour les intimes. Et donc, l'IPFS, c'est quoi? C'est une technologie révolutionnaire de partage de fichiers. Oui, oui, révolutionnaire. Bon, c'est une techno pair à pair qui vise à créer en fait un stockage Internet décentralisé. En gros, on aura des morceaux de fichiers un peu partout, sur plein de nœuds, plein de serveurs, etc. Donc, il utilise un adressage de contenu unique et une table de hachage distribuée pour localiser les données et donc pour savoir où est-ce, à qui on doit s'adresser pour avoir notre fameuse donnée. Et donc, Scaleway propose maintenant le service en bêta et ça, il le fait pour faciliter l'adoption de cette technologie. Scaleway nous propose un service, enfin nous promet plutôt un service convivial, clé en main et également très rentable grâce à leur maîtrise complète de l'infrastructure. Alors, il y a quelqu'un de chez nous qui l'a testé et apparemment, il n'a pas eu de problème. Donc, pour le clé en main, je pense que c'est là. Pour le reste, faudra attendre. Donc, selon GoodTech.info, c'est le premier grand acteur mondial du cloud à offrir un service de stockage sur IPFS. Donc ça, c'est à saluer. Et du coup, cette technologie, qui est une technologie ouverte, puisque je crois qu'elle est libre et open source, c'est selon Scaleway une solution pour avoir une meilleure répartition des données entre les créateurs, donc nous, et les utilisateurs, donc toi qui écoutes, ou les personnes qui s'adressent aux applications Internet, tout en offrant bah, une alternative moderne et économique au couple, justement, stockage S3 CDN, parce que habituellement, ce qu'on fait dans les applications, c'est qu'on stocke les données et les médias dans du stockage objet de type S3 et on le distribue partout dans le monde avec du CDN. Là, comme on est sur une techno pair à pair, c'est une sorte de stockage CDN tout en un. Alors, c'est pas tout à fait pareil, mais bon, parce qu'il y a des il y a des fonctionnalités que ne propose pas IPFS, je pense. Alors, selon moi, c'est un pas de plus que fait Scaleway vers le multicloud. On sait qu'ils sont vraiment un porteur de cette philosophie-là d'avoir du multicloud, des entreprises qui ont plusieurs cloud providers. Ça s'adresse pas à toutes les tailles d'entreprises, mais je pense que Scaleway veut adresser les entreprises d'une certaine taille. Et surtout, il y a l'interopérabilité des données, c'est-à-dire que nos données vont transiter d'un opérateur à l'autre. Et j'ai cru comprendre que tu pouvais avoir des données qui sont dupliquées, triplées, quadruplées, etc. Ce que je ne sais pas, et je serais curieux de l'avoir, c'est la vitesse de transmission des données. Parce que en fait, quand on est sur Internet et quand on est sur des technos de ce type-là, il faut absolument que la donnée elle soit délivrée rapidement. Donc je ne sais pas si c'est aussi efficace que du stockage S3 / CDN. Bon, je ne sais pas si vous connaissiez, vous, l'IPFS. Moi, je l'ai découvert un peu avec cette news et avec l'aide de mon alternant qui a fait des recherches aussi. Et René, toi, est-ce que tu connaissais l'IPFS? Est-ce que tu l'as déjà utilisé? Est-ce que tu comptes un jour l'utiliser?
Alors, oui, je connaissais. Non, j'ai jamais utilisé. Et après, j'ai lu un peu l'article. Alors, j'ai vu que tu en as rajouté un autre, donc j'ai pas eu le deuxième. J'avoue que je suis un peu resté sur ma faim. Sur par rapport au fonctionnement de, parce que comme c'est une technologie peer-to-peer, Bah, savoir comment ça marchait, où sont les données, est-ce que y en a une partie quand même chez le client entre guillemets. Voilà, ça manque un peu de précision, un peu flou, mais en tout cas, ouais, c'est ça paraît super intéressant et effectivement, après, en termes de si ça mutualise entre les acteurs de manière transparente, c'est vrai que c'est intéressant en termes de coûts et de voilà. Puis, comme tu le dis aussi, quelles sont les performances attendues de ce type de stockage. Mais en tout cas, c'est en tout cas une belle initiative, je trouve. Et ouais, je trouve que c'est pour le coup là, c'est plutôt innovant. Donc c'est sympa que ce soit une boîte française qui fasse ça. Voilà.
Alors, je vais juste répondre à deux questions de René avant de te laisser la parole, Nicolas. Donc, à partir du moment où c'est une donnée, un projet libre, et je crois que tu as des serveurs IPFS, tu peux les installer aussi chez toi. En tout cas, nous, Arthur, qui a fait le test, il avait son nœud IPFS sur sa machine, plus le IPFS as a service, parce que ce n'est ni plus ni moins que ça, l'IPFS as a service de Scaleway, et donc les données transitaient entre l'un et l'autre, et j'imagine que tu peux rajouter des nœuds chez n'importe quel cloud provider si tant est que tu as tes serveurs et que tu installes le serveur IPFS, parce que j'imagine que ça passe par un programme en fait. Nicolas, je te laisse la parole.
Ouais, j'avais vu passer ça il y a quelques temps, et effectivement il y a un petit peu une version desktop aussi, donc ça ressemble à un Dropbox distribué. Je pense que ça fait partie des trucs à surveiller qui pourraient résoudre une partie des problématiques des développeurs et des infrastructures qu'on veut rendre scalables, dispo et effectivement, comme tu le disais, multi-provider. Donc, encore un truc intéressant de Scaleway à surveiller.
Alors justement, je sais qu'il y a eu une discussion entre mon associé et mon alternant à ce sujet-là, et j'étais pas là, j'ai juste vu la vidéo de la revue auquel j'étais pas. Il se posait la question du cas d'usage, et moi j'en vois un en fait cas d'usage qui m'a fait tilt très fort, c'est la distribution des ISO Linux. Aujourd'hui, la distribution des ISO Linux, donc on peut les télécharger en FTP, etc. Et il y a des miroirs. Et donc j'imagine que si on pouvait les stocker sur de l'IPFS de ce type-là, il y aurait plus besoin de FTP et de miroir, puisque tout serait en fait réparti dans le monde grâce à un ensemble de serveurs réseau, et en plus les communautés ou les distributions Linux pourraient s'entraider en plus entre elles. Enfin, j'imagine ce cas d'usage, pour moi, c'est le plus, ou même pour la distribution des binaires, enfin, on n'est même pas obligé de se limiter à Linux, la distribution des binaires de logiciels open source ou libres, ça pourrait passer par des trucs comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez de cette idée-là.
T'as quand même les ISO, normalement, de certaines distributions qui sont distribuées par Torrent. Donc, voilà, ça rejoint un peu, alors ça serait probablement un peu moins, enfin, là, avec IPFS, c'est, je pense, plus transparent encore, à mon avis, parce que c'est plus sous la forme d'un file système, voilà. Mais, ouais, après, ça peut être des cas d'usage. Voilà, après, dans ce que je disais juste avant, je voulais juste rajouter que, probablement, je ne connais pas assez IPFS dans le détail, et une partie de mes questions sont probablement dans la doc IPFS.
Ah ben c'est sûr. Nicolas, tu veux rajouter un truc?
Oui, c'est très marrant parce que moi j'ai le cas d'usage d'avoir un repository type Debian privé, et je cherchais une manière de le distribuer sur plusieurs machines tout autour de la planète et de faire en sorte que ça soit à peu près rapide pour tout le monde. Donc peut-être que ça serait un truc intéressant. Après, je sais pas si ça sera nativement compatible HTTP. Donc ça... Encore une fois, c'est un truc à regarder.
Exactement. Radio DevOps, c'est le fournisseur officiel d'outils à regarder. Alors, c'est le meilleur moment pour moi de te demander de l'amour et des thunes. En effet, si tu aimes le podcast, si tu penses qu'il t'aide au quotidien, ou si tu as appris des choses, je parle de cet épisode, mais tous les épisodes qu'on a déjà fait, parce qu'on a explosé le score des 100 épisodes, hein, largement, avec tous les podcasts qu'on a fait. Si tu veux t'assurer, en fait, que Radio DevOps continue longtemps, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est avec un petit don. Tu peux aller sur soutenir.compagnon-devops.fr, ou tu trouveras le lien en description, puis tu pourras donner ce que tu peux ou ce que tu veux. Et puis, si tu veux rester comme ça sans donner, tu peux aussi, et en partageant nos podcasts sur les réseaux sociaux. Alors, puisqu'on est dans le libre, dans le logiciel libre, René, tu vas nous parler d'Open Hardware.
Oui, alors très rapidement, j'ai vu cette news passer sur Twitter. Et donc, il y a une société qui s'appelle Milk 5, je crois que ça c'est comme ça, qui a annoncé la disponibilité d'un switch 10 gigabit, donc switch réseau, et open source, et basé sur l'architecture RISC-V. Donc voilà, comme je parle parfois de RISC-V, j'ai trouvé que c'était intéressant de le mentionner, parce que pour moi, ça montre quand même que cet écosystème, ce processeur, tout ça devient de plus en plus mature et on commence à avoir des solutions qui arrivent. Alors ça reste encore peut-être le début, mais voilà, pour moi c'est quelque chose qui va être prometteur. Et j'ai regardé rapidement les caractéristiques du switch et ça a l'air plutôt pas mal. On retrouve une bonne partie des caractéristiques supportées par des switches réseau assez récents. Et puis avec j'ai l'impression quand même une volonté d'être open source, mais de pouvoir voilà un peu s'interfacer avec par exemple d'autres capteurs, des choses comme ça. Voilà, une vraie volonté de d'interopérabilité et de donner accès aux utilisateurs à pas mal de choses. Donc voilà, à suivre, je pense. Et malheureusement, c'est une société chinoise. Voilà, c'est pas forcément français, mais voilà, je trouvais ce nouveau matériel intéressant.
Alors j'ai une question justement parce que tu dis que c'est chinois, mais est-ce que donc de ce que je comprends bien, c'est que le système est open source, mais est-ce que c'est de l'open hardware comme je l'ai annoncé aussi?
Oui, à première vue, oui, sachant que RISC-V c'est un processeur dont l'IP est libre entre guillemets, et oui, je pense que la enfin, il y a un noyau Linux, il y a voilà, ça non, donc ça a l'air d'être complètement open.
Le fait que ce soit fabriqué par des Chinois, si c'est open hardware et open source, on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de backdoor caché ou ce genre de choses, puisque de toute façon, les gens vont étudier le code source ou le hardware partout autour de la planète. Enfin, je pense que, en tout cas, pour moi, le fait que ce soit chinois, ce soit pas forcément rédhibitoire là-dessus. Peut-être si c'est fabriqué par des Chinois.
Alors, ouais. Pour moi, c'était pas forcément une. Comment dire? Le fait que je vous ai mentionné que ce soit chinois, c'est plus que je trouve qu'ils avancent vite sur le sujet et peut-être qu'en Europe, on devrait. Après, je connais pas tout ce qui est fait en Europe non plus, hein, mais voilà, j'ai l'impression qu'ils en parlent un peu plus. Après, moi, j'ai pas spécialement de. Enfin, voilà, des backdoors, etc. Est-ce qu'il y en a plus venant de la Chine que d'autres pays? Ça peut se discuter.
Les Américains sont nos alliés, René.
Oui, bien sûr.
Je troll un peu. Oui, en fait, tu déplores plutôt qu'en Europe, on n'avance pas assez vite sur ces questions-là. Moi, ça ne m'étonne pas que la Chine soit dans la pointe, puisque finalement, c'est la fabrique du monde. Et ils ont une avance considérable, que ce soit les Chinois, les Taïwanais ou les Coréens, ils ont une avance considérable sur plein de choses. Et même les États-Unis font encore fabriquer beaucoup de choses chez eux. Donc, ils ont la connaissance et les techniques. Nicolas, je t'en prie.
Ouais. Alors déjà, je ne sais pas si c'est open hardware, mais déjà le fait que ça soit open source pour un switch, c'est super intéressant. Le RISC-V, ça va être une architecture dont on va de plus en plus entendre parler, et je pense que c'est aussi une bonne nouvelle. Si ça peut montrer la voie à certains Européens pour faire du matériel souverain, on va pas encore faire des PC ou des serveurs open hardware fabriqués totalement en Europe, mais les switches, c'est peut-être un petit peu plus simple de commencer par là. J'ai regardé les caractéristiques, c'est plutôt intéressant. Je suis un petit peu déçu, on peut pas encore l'acheter, donc je vais pas pouvoir l'essayer si rapidement que ça. Après, sur le côté, si c'est open source, il n'y a pas de backdoor, il faut toujours se méfier d'un truc, c'est que c'est pas parce qu'on vous montre les sources que le firmware que vous installez est sans backdoor. Et en plus, pourquoi il y a des backdoors chinoises installées plus facilement, c'est parce que la plupart du matériel vient de chez eux. Et quand on veut faire une backdoor matérielle, c'est plus facile quand c'est nous qui fabriquons le produit. Et quand je dis nous, c'est les Chinois qui peuvent plus facilement mettre des backdoors sur du matériel fabriqué à destination de d'autres pays. Les Américains ont récupéré des switches Cisco, des serveurs, des processeurs Intel avec des failles intégrées directement dans le silicium et de manière de plus en plus maligne. Donc bon, bah, les questions de souveraineté vont devenir vraiment très importantes. Et si le sujet vous intéresse, il y a une série de reportages d'Arte par rapport à l'indépendance, notamment de Taïwan, qui fabrique 80%, voire peut-être beaucoup plus, de tout ce qui est silicium. Et en fait, ils ont une avancée telle que c'est devenu une région critique. Et les Américains leur ont mis une pression pour qu'une partie des usines soit rapatriée sur le sol américain. Donc ça montre que même eux, ils ont pris conscience que la souveraineté du matériel commençait à devenir importante. Donc il y a eu beaucoup de trucs néfastes avec la guerre en Ukraine, mais il y a quelques bons côtés par rapport à ça, que ça a été un accélérateur de la volonté de vouloir reprendre le contrôle là-dessus. Ce qui serait pas mal, c'est que les Européens fassent à peu près la même chose, même si on a moins de leviers, il faudrait essayer de faire la même chose.
Voilà. Ouais, je suis parfaitement d'accord avec toi. J'irais même plus loin sur ton histoire de firmware qui peut contenir des backdoors. Comme tu l'as dit, le matériel lui-même peut contenir des backdoors qui sont pas dans le source. Mais comme c'est open source et open hardware, comme tu le dis, bah c'est à nous, Européens, de participer aussi au projet et d'avoir des fabricants sur place, un peu comme l'ARM, sauf que l'ARM c'est sous licence, mais on a divers fabricants qui fabriquent de l'ARM. Bah là, j'imagine très bien plusieurs fabricants qui participent au développement de cet open hardware et de ce logiciel, mais qui le fabriquent aussi à côté. Et donc, on pourrait avoir des fabricants de switch. Et comme tu le dis, c'est déjà une première base qui est assez intéressante là-dessus. René, est-ce que tu veux clôturer le... Ouais, vas-y, Nicolas.
Oui, bah, pardon.
Vas-y.
Non, bah, je voulais juste dire, voilà, moi, ce qui m'intéressait à travers cette news-là, c'est de montrer que, voilà, cet écosystème, ça bouge, il y a des initiatives, et voilà, je trouve ça intéressant. Et puis, ben, peut-être que je fais un petit poc à Nida, qui est bien branchée sur tout ce qui est risque 5, elle pourra peut-être nous en dire encore un peu plus sur le sujet.
Moi, en tout cas, vas-y Nicolas, je t'ai encore coupé la parole, c'était juste que je voulais réagir à ce que disait René.
Ouais, mais ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il y a quelques années, on avait Alcatel qui fabriquait du matériel réseau assez à la pointe et ça a été revendu à je sais plus quelle boîte qui a coulé toute la branche matérielle d'Alcatel. Et c'est vraiment dommage parce que on avait des switches qui étaient vraiment super intéressants. C'est la première fois que j'avais vu des VLAN déployés à une aussi grande échelle. C'était dans une grande école rennaise. Et c'est dommage qu'on ait arrêté de faire tout ça parce qu'on avait les compétences sur le territoire français.
C'est vrai. Et ben moi je vais envoyer cet article à mon associé Thomas parce que lui c'est la personne qui s'occupe plutôt du réseau chez nous et ça va lui faire plaisir je pense de voir ce genre de choses. Bon, alors on va passer sur le gros morceau du podcast. Je pensais que ce podcast on finira en moins de 40 minutes mais comme quoi non. On est à 42 minutes et on n'a pas encore entamé le très gros morceau du podcast. On va parler du drama HashiCorp et du changement de licence. Et je remercie Nicolas pour m'avoir subtilisé cette news au dernier moment.
Bah écoute, avec plaisir. Donc, pour te soulager un petit peu, je vais raccourcir le podcast, en tout cas la fin. Je vais schématiser en disant Terraform, ça pue, c'est pas libre. Bon, c'est bien sûr, c'était un petit troll gentil pour ceux qui ont connu l'époque de Java et qui n'étaient pas libres à l'époque. Donc bon, pour ceux qui étaient un petit peu trop en vacances cet été, HashiCorp a fait un changement de licence. Alors on raccourcit un petit peu en disant Terraform, mais je crois que ça impacte tous leurs produits qui sont aujourd'hui en open source et qui ont une un pendant commercial. Donc c'est quoi? C'est Terraform. Terraform, vous avez la version open source que n'importe qui peut utiliser gratuitement, mais si vous voulez, vous avez la possibilité de prendre Terraform Cloud et c'est eux qui vont gérer vos plans, vos exécutions, les TF state, les sauvegardes, le versionning, etc. Vous avez Consul, Nomad et Vault que vous pouvez prendre en version cloud. Donc c'est HCP, la solution HashiCorp Cloud Platform, je crois, où en fait vous avez la version Enterprise qui est entièrement managée par eux. Le reproche que je pourrais leur faire là-dessus, c'est avec un pricing un petit peu obscur. Mais bon, c'est pour avoir discuté avec les commerciaux français, ils sont encore en train de se chercher sur le pricing. Donc, si vous avez un besoin en entreprise, appelez-les et dites-leur, notre budget, c'est ça, on a besoin de telle fonctionnalité. Et a priori, ils sont capables de s'adapter. Donc, c'est pas parce que les prix sont pas affichés que ça sera beaucoup trop cher pour vous. Alors après, le changement de licence qu'ils veulent mettre en place, c'est quoi? C'est un petit peu comme ce qu'avait fait Elastic et je sais plus comme quelle autre entreprise. Vous avez des acteurs comme AWS, Google et tous les autres qui vont faire des offres cloud et qui vont se faire de l'argent avec les offres cloud. Et en fait, ils vont prendre la solution open source, ils vont mettre leur glue à eux et ils vont se faire de l'argent sur des produits open source. Donc eux, ce qu'ils veulent limiter, c'est cette partie-là, c'est le fait que on vende un produit qui vous simplifie la vie sur Terraform, qui vous simplifie la vie sur Consul, Nomad, Vault et ainsi de suite, sans rétribuer directement à HashiCorp, puisque bah, c'est une entreprise, donc ils ont besoin de revenus. Ils font un logiciel qui est open source que vous pouvez utiliser gratuitement, mais si tout le monde l'utilise gratuitement, au bout d'un moment, bah, ils vont mettre la clé sous la porte et il n'y aura plus rien pour personne. Donc on en a déjà parlé une fois, et je trouve dommage que le raccourci qu'il y a eu, c'est « Ah bah voilà, ça y est, c'est plus libre, on va plus pouvoir faire ce qu'on veut avec ». Non, ils ont bien insisté sur un point, si vous développez un produit autre, et qui ne vient absolument pas en concurrence avec ce que fait HashiCorp, ils vont jamais vous restreindre la licence. Bon, c'est facile à dire aussi, hein, ils peuvent changer d'avis dans 2 ans, mais bon. Mais on en revient toujours au même, c'est les entreprises qui font de l'open source ont besoin d'un modèle économique. J'en sais quelque chose puisque ça fait quelques années que je travaille dans des entreprises qui font de l'open source. Et je ne vais pas leur jeter la pierre d'avoir changé cette licence-là. Moi, je trouve que c'est relativement fair et juste ce qu'ils ont fait, puisqu'ils demandent simplement que les entreprises qui font de l'argent avec leurs solutions les rétribuent d'une manière ou d'une autre. Et quand je dis « font de l'argent », c'est... je crois avoir vu passer, alors j'ai pas épluché dans le détail toutes les entreprises qui ont annoncé faire un fork, mais globalement, celles qui veulent faire des forks, c'est parce qu'ils ont des solutions avec lesquelles ils font de l'argent directement liées à Terraform ou aux autres produits, et c'est ça qui est un petit peu problématique, c'est bon bah ils veulent récupérer une part de notre gâteau alors qu'on est déjà en train de leur piquer la leur, et ben on va faire un fork. Et donc, on va casser la communauté, on va... tous les problèmes qui peuvent venir avec un fork. Et tout ça parce qu'ils ne veulent pas partager la part du gâteau. Je trouve que c'est un petit peu dommage de cracher sur une entreprise qui leur a beaucoup apporté par avant. Mais bon, je vais peut-être laisser la parole à René qui lui aussi se sent peut-être un petit peu concerné.
Bah... Enfin, ouais, je sais pas trop quoi dire en fait. Oui, c'est enfin pour moi c'est à chaque fois qu'il y a ce genre de cas qui arrive, je trouve ça dommage. Mais bon, tu l'as bien expliqué, voilà, c'est alors il y a peut-être un petit bémol par rapport à HashiCorp, c'est que dans ce cas-là, ils sont pas forcément attaqués par des très gros cloud providers comme c'était le cas pour AWS. Mais bon, voilà, après c'est l'idée, ça reste un peu la même, c'est d'essayer d'avoir une contribution de gens qui contribuent pour zéro et voilà. Alors oui, c'est plus open source sur papier, même si la licence reste relativement permissive, on va dire. Voilà, moi je trouve que c'est un peu dommage à chaque fois, mais bon, après je fais aussi un peu la part des choses. Je comprends aussi que malheureusement certaines sociétés sont obligées d'en arriver là. Voilà, puis c'est aussi peut-être un peu pour ça que souvent on répète penser à contribuer, etc. Alors c'est pas forcément individuellement, ça peut aussi être parfois rapporté à son management, leur dire on a un produit qui est sensible, ça serait pas mal de contribuer, parce que en fait, si pour moi c'est un petit peu un échec quelque part, c'est quelque part la base d'utilisateurs contribue pas du tout ou joue pas le jeu. Et surtout certaines grosses sociétés, je pense. Et puis, on arrive à ce type de choses et des restrictions un peu de ce type-là. Alors après, j'ai un peu hoché la tête aussi sur un truc que tu as dit, c'est que effectivement, première vue, les sociétés qui sont passées sur ce modèle-là, elles n'ont pas été spécialement hostiles. Elles sont restées, on va dire, mais rien n'empêche. N'empêche qu'elle rechange de licence, ou est une des difficultés de ce type de licence comme la BSL, c'est que les limites en sont parfois un peu floues. Donc, si on avait une entreprise qui était un peu malveillante, ça pourrait assez vite, je pense, déraper juridiquement. Et donc, ils pourraient attaquer des gens qui considèrent comme étant des concurrents, même si ça peut être un peu flou dans la licence, c'est pas forcément le cas. Voilà, je n'ai pas forcément plus à dire que ça.
Bon, du coup, je vais prendre la parole. Alors, la BSL, c'est la Business Source License, en effet, qui a été lancée par MariaDB, d'après ce que je vois, sur le site de HashiCorp. Je me trompe peut-être. Bref, je sais pas dans quelle mesure cette licence, elle est pas open source. Alors, je sais pas si l'open source initiative, elle a exclu ou pas la business source licence.
Alors, ça, je peux te répondre. Désolé, je t'interromps. Ouais. Ouais, c'est sûr que c'est pas, en termes de logis, c'est pas open source, parce que dans l'open source, tu n'es pas censé restreindre à une certaine catégorie d'utilisateurs.
D'accord.
C'est-à-dire, par exemple, même si tes utilisateurs, t'es pas d'accord avec ce qu'ils vont faire avec, ils vont faire des missiles. T'as pas le droit de restreindre ça. C'est voilà.
En tout cas, une chose, ce que j'allais dire, c'est qu'une chose est sûre, c'est qu'elle n'est pas libre. Donc, en effet, parce que tu restreins une partie des utilisateurs. Moi, je vais plutôt prendre la parole de quelqu'un qui fait du business sur une solution open source, parce que tout le monde ne le sait pas, mais aujourd'hui, je suis CTO et product manager d'une solution qui s'appelle Frogit. Frogit, c'est une usine logicielle qui est pour l'instant basée sur GitLab et Mattermost, mais demain on va l'étendre à d'autres services. Nous, on a une vision produit, pas simplement d'hébergeur de solutions open source. Bref, Frogit, c'est pas de l'infogérance de GitLab, c'est pas de l'infogérance de Mattermost, c'est vraiment un produit basé sur des briques libres. Passer ça, nous, l'une des premières questions qu'on s'est posées en tant que créateur de produits basés sur des briques libres, puisqu'on a deux SaaS qui fonctionnent de la même manière avec mon associé, on s'est demandé comment rétribuer les créateurs de ces produits-là. Nous, on est tout petits, hein, on est quatre personnes, on est une toute petite start-up, on n'est même pas encore une start-up, parce que pour l'instant, on est incubé dans notre propre collectif de freelance, mais bientôt, on sera une toute petite start-up. Et on n'est pas non plus des grandes entreprises, mais on se pose déjà la question aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut rétribuer ces gens-là? Alors, on a évacué la réponse, parce que pour l'instant, on n'a juste même pas les moyens de nous payer, nous. Par contre, ce qu'on fait, c'est on crée du contenu autour de ce truc-là, puisque ben, je crée du contenu autour de GitLab. Hein. J'ai participé aussi à Mattermost TV avec les lives. On participe au, à la documentation. Parfois, on trouve des bugs. Donc, on participe à l'effort dans nos maigres moyens. Mais un jour, on veut aussi participer financièrement en donnant des sous à ces gens-là. Bon, GitLab, ils acceptent pas les dons, donc ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre des licences auprès d'eux pour GitLab.com, parce qu'on utilise aussi GitLab.com, donc on va très certainement prendre des licences. Et voilà. Alors, ce qui m'ennuie avec cette histoire, c'est que je comprends les deux parties. Bah, parce que déjà, je fais partie d'une des parties. Donc, on l'a pas cité, mais les clients concurrents à comment ça s'appelle Terraform Cloud, c'est ça. Moi, j'utilise Terraform Cloud, justement. J'ai la version gratuite de Terraform Cloud, mais il y a des concurrents. Je comprends leur point de vue. Néanmoins, je sais pas si eux font l'effort, justement, de financer, participer, etc. Alors, ils disent qu'ils le font. Donc, les questions qu'on se pose, c'est pourquoi HashiCorp a fait ce move. Et d'un autre côté, je comprends HashiCorp, justement, qui cherche à avoir des participations. Néanmoins, comme vous l'avez dit, j'ai quand même peur dans cette histoire-là que HashiCorp cherche à couper l'herbe sous le pied de ses propres concurrents et qui ne sont pas des concurrents de très grande taille non plus, sont des concurrents a priori de leur taille ou voire un peu plus petit. Et donc, ce qu'on peut craindre, parce que c'est pas le premier logiciel open source qui passe sur cette licence-là, puisqu'il y a eu d'autres choses, puis on a traité aussi le cas de Red Hat. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la fin, petit à petit, du logiciel libre et ou open source, pour aller vers quelque chose de « Ok, tu fais pas du business avec, c'est open source, tu fais du business avec, tu nous payes. » Et donc, est-ce que ça va pas ralentir l'innovation au sein de l'écosystème libre. Moi, c'est une de mes craintes là-dessus. Donc, je pose ça là. Je vous laisse réagir à ce que j'ai dit.
Ouais. Effectivement, comme tu le dis, la crainte qu'il peut y avoir, c'est que ceux qui veulent faire des logiciels concurrents à Terraform Cloud ne puissent plus le faire pour des raisons financières. Après, j'y pensais juste avant qu'on commence le podcast. En fait, c'est si on pouvait aller voir HashiCorp et dire ben, « on fait moitié-moitié sur les bénéfices, tant que ton entreprise te coûte plus cher que ce qu'elle rapporte, tu donnes rien à HashiCorp, jusque-là, tout va bien. » quoi. Par contre, après, quand la société commence à faire des bénéfices, ben, il faut pouvoir partager de manière équitable. Je ne sais pas si ces entreprises qui se sont lancées là-dedans ont eu cette discussion avec HashiCorp. Après, oui.
Mais peut-être qu'elles sont pas rentables elles non plus, hein, parce que on est dans le cadre de HashiCorp. Je ne sais même pas si c'est rentable aujourd'hui. C'est une grosse boîte qui a fait beaucoup de levées de fonds. On en a parlé d'ailleurs. Mais ces boîtes-là où il y a des années de recherche et développement avant de trouver déjà un produit et avant d'atteindre le poids, parce qu'on parle de produits avec des frais d'abonnement faibles souvent, et donc tu dois miser sur la masse. Est-ce que ces boîtes-là, elles sont rentables aujourd'hui? Je ne sais pas. Peut-être que non, pas encore.
Bah, en fait, c'est aussi toujours le problème de ces offres enterprise. Moi, je suis toujours un petit peu le cul entre deux chaises parce que ça fait quelques années que je travaille dans des entreprises. Alors, on fait de l'open source, donc du coup, on comprend bien l'intérêt de rémunérer les boîtes qui font de l'open source. Mais j'ai aussi des applications monotonantes, donc ça veut dire que j'ai autant de VM que j'ai de clients, plus les VM d'infrastructure, donc je me retrouve rapidement avec des parcs de centaines de machines. Et quand tu regardes le pricing de ces offres enterprise, c'est tu payes à la VM. Alors moi, quand je regarde, je suis en open source, je paye rien à l'entreprise. Je veux la version enterprise parce que je commence à avoir à la fois besoin des fonctionnalités et puis bah, ça me paraît normal de partager un petit peu à un moment donné. Et puis tu te retrouves à payer 5 000 $ par mois. Bon, bah, 5 000 $ par mois, j'ai pas les moyens de payer ces entreprises-là. Ça se réparant à la rigueur, ça pourrait se discuter et encore, je suis même pas sûr. Mais on passe de c'est gratuit à tu payes super cher. Donc globalement, ce qui se dit, c'est que c'est des grosses boîtes du type Bouygues, AWS, etc., qui vont avoir besoin de ces fonctionnalités-là et qui ont le budget et qui vont payer l'entreprise. Et c'est comme ça qu'ils vont se faire de l'argent. Malheureusement, ça marche pas dans tous les écosystèmes. On l'a vu avec Docker, ils ont eu exactement le même problème. On le voit avec Red Hat qui, du coup, a trouvé une manière de rester open source tout en restreignant le code, etc. Et en fait, on en revient toujours au même. C'est d'un côté, il y a des gens qui veulent pas payer, qui traînent des pieds alors qu'ils ont plein de pognon. Et puis, de l'autre côté, il y a des petits utilisateurs comme nous qui voudraient bien payer, mais qui n'ont pas la possibilité de payer. Et puis, voilà. Et c'est marrant parce que la semaine dernière, dans nos clients, donc mon entreprise développe une solution open source. Nos clients, c'est des studios. Ils ont des budgets toujours un petit peu compliqués. Donc, au début de prod, ils n'ont pas le budget. À la fin, enfin bon, bref. Et la semaine dernière, j'ai appris qu'on avait un client qui nous a pris un abonnement cloud. Donc, on leur a installé une VM, machin, etc. Et en fait, ils ne l'utilisent pas du tout parce qu'ils utilisent la version open source en interne. Mais ils se sont dit, on a envie que la boîte continue à tourner, on a un petit peu de moyens, donc on leur prend un abonnement parce qu'on a envie qu'ils puissent continuer, pour le dire plus directement, à bouffer et qu'on puisse continuer à voir les évolutions sur le produit. Et là, maintenant, ils viennent, ils nous posent quelques questions par-ci, par-là, mais c'est nos clients les moins chronophages et finalement qui nous donnent de l'argent pour pouvoir continuer à utiliser le produit en open source. Et en fait, si on pouvait avoir un moyen de financer l'open source un petit peu comme ça aussi, ça pourrait être intéressant. Et c'est toujours la problématique de... quand on construit un business, c'est simple, c'est combien nous rapporte un client par rapport à ce qu'il nous coûte. Et si c'est un client qui nous pose des questions où ça nous prend des heures toutes les semaines à répondre, il faut embaucher des gens pour pouvoir y répondre. Et si ce client-là nous paye 10 euros par mois alors qu'il nous en coûte 5 000 en masse salariale, c'est pas rentable. Donc c'est toujours cette problématique du financement de l'open source. Mais encore une fois, si vous financez pas l'open source, ce qui va se passer, c'est que les entreprises vont arrêter de faire de l'open source et on va revenir dans le mode où c'est des gens dans leur garage qui font de l'open source. Donc, vous allez vous retrouver avec un OpenSSL, avec un mainteneur qui fait un patch le 31 décembre avec sa coupe de champagne et qui va mettre un trou de sécurité et où c'est utilisé par des millions de personnes. Et puis voilà. Donc, bref, c'est compliqué. Et je ne vais pas forcément en redire beaucoup plus parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'on a commencé le podcast et j'avais dit que ça serait une news rapide.
Après, on le voit quand même, juste quand même pour les gens. Une des problématiques aussi, je trouve, c'est que, et là on l'a vu un petit peu avec le fork qui a été lancé, OpenTF, c'est que je pense que peu de gens évalue le travail qui est fait par ces sociétés-là. En fait, en l'occurrence, HCorp, ils font beaucoup de boulot sur Terraform de maintenance, et ça a un coût. Et voilà, peut-être qu'il y a aussi il manque peut-être un peu de visibilité sur tout ce qu'ils font pour que les gens comprennent il faut effectivement des sources de revenus à un moment. Et pour répondre à ce que Christophe disait, oui, moi aussi, j'ai un peu l'impression qu'il y a un peu une érosion là, un petit peu côté open source, avec des produits qui, des sociétés qui sont obligées de changer de modèle ou de s'adapter. C'est dommage, mais bon, à première vue, c'est comme ça.
Alors, je vais remettre une pièce dans la machine, hein. Je suis désolé, mais parce que c'est un sujet important et ça a beaucoup parlé sur le forum des compagnons de ça. D'ailleurs, je mets le lien du sujet du forum en description. Donc, si t'es pas inscrit au forum, bah, faut t'inscrire pour aller participer au débat. Mais j'aimerais qu'on parle des boîtes open source, des boîtes qui sont derrière un logiciel open source versus les logiciels qui sont portés par des fondations. Parce que je sais que y a beaucoup ce débat-là du fait de dire, ok, bah, si t'es une boîte commerciale qui édite un logiciel open source, à un moment donné, forcément, il peut se passer des choses comme ça. Est-ce que c'est une crainte pour vous qu'il y ait des boîtes qui éditent des logiciels open source et qui changent la licence du jour au lendemain, parce que c'est vraiment ça qui s'est passé. Est-ce qu'il faut que les logiciels open source appartiennent forcément à des fondations pour vous? C'est quoi votre avis un peu là-dessus?
Alors moi, je suis pas super à l'aise parce que, attention, quand on parle de fondation, c'est pas comme chez nous, des boîtes... Enfin, c'est fondation à l'américaine. Hein. Ça rapporte, voilà, il y a du cash derrière. C'est pas des lois 19. Ouais, c'est pas comme en France. Donc c'est pour ça que je suis pas très à l'aise pour répondre.
Alors attention, René. Je suis pas sûr que ça... En France, les fondations sont pas des, enfin, c'est pas que des lois de 1901. Il y a des fondations, des fonds de dotation. Il y a des structures juridiques adaptées à ça aussi en France et en Europe.
Ouais, mais je pense qu'on a peut-être la conception plus française, logique, quoi. Enfin, on est français. Et je pense que c'est quand même très différent comment c'est géré aux États-Unis.
Je vais peut-être préciser mon propos alors, si tu me le permets. Quand je parle de fondation, je parle d'entité avec une gouvernance partagée de plusieurs acteurs. Ça va peut-être. Voilà, je te laisse continuer.
Eh ben oui, alors Finicius, voilà, je suis pas sûr que ça change tant de choses. Après, oui, pour la gouvernance, ça change des choses, parce que pour le coup, je travaille sur un projet dont la gouvernance est ouverte jusqu'à un certain point. Et donc oui, c'est forcément mieux d'avoir différents acteurs qui décident un peu de la stratégie du produit. Ça, oui, ça, je pense que c'est mieux. Après, ça a des. Comment dire, c'est toujours un équilibre à trouver en fait, parce que oui, c'est mieux pour la gouvernance, ça assure quelque chose qui est plus participatif et la direction du produit elle est pas décidée par un seul acteur, mais c'est le pendant, c'est que bah parfois ça va plus doucement parce que il faut trouver un consensus entre les acteurs pour que ça avance dans la direction souhaitée, et c'est pas toujours le cas. Donc voilà. C'est pas forcément. Je pense que c'est vraiment un problème compliqué en fait.
Bah, par exemple, dans un des articles qu'il y a dans les notes de l'épisode, il y a la version traduite, c'est il y a notamment les trois plus grandes entreprises qui concurrencent le plus sont directement des offres de Terraform managées. Donc il y a Spacelift, Env0 et Scalar qui ont tout engagé plusieurs millions de dollars à soutenir un fork de Terraform. Donc c'est trois équivalents temps plein, 13 pardon, pendant 5 ans pour ces trois entreprises-là. Donc s'ils sont capables d'investir dans un fork, pourquoi est-ce qu'ils sont pas capables d'investir dans des licences directement auprès d'HashiCorp? Pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas fournir une capacité de travail directement à HashiCorp? Parce que finalement, s'ils ont ce budget-là, il n'y a pas de raison qu'ils puissent pas l'avoir pour financer l'entreprise qui a créé le produit à la base. Et moi, en tant qu'éditeur de logiciels open source, je prendrais très mal qu'une entreprise fasse développe un logiciel concurrent à mon offre Enterprise. Parce que finalement, notre business model, c'est le logiciel entièrement open source, il n'y a aucune fonctionnalité enterprise. Ce qu'on vend, c'est l'hébergement et la gestion des installations. Il y en a qui ont des installations open source, qui ont largement les moyens de nous payer, ils font pas le choix de nous payer, c'est la vie, on peut rien faire. On aurait une entreprise qui se montrait pour vendre notre solution et qui commencerait à faire des modifications du code et qui la garderait dans leur coin. Là, je le prendrais très mal. Et là, je comprendrais que mon patron dise « Bon, ben, on va arrêter la partie open source et puis on va complètement verrouiller les vannes et toutes les installations open source, ben, ils se débrouilleront avec leur fork et finalement, nous, on va rendre nos trucs. Sauf que si on veut pas en arriver là, financer, encore une fois, financer les entreprises pour les inciter à pas faire de changement de licence et ainsi de suite.
Et du coup, c'est la dernière pièce que je vais mettre dans la machine, promis. Est-ce que des visions comme celle que prône GitLab, hein, vous savez à quel point j'adore GitLab, qui, elle, propose un produit open source et libre pour son cœur et des fonctionnalités sous licence, mais qui reste visible parce que le code est complètement ouvert. Est-ce que c'est une voie qui est souhaitable pour justement des sociétés qui éditent un soft open source, c'est-à-dire avoir un cœur open source et puis des fonctionnalités payantes pour les entreprises les plus exigeantes?
Ouais, bah c'est ce que fait Elasticsearch aussi, où tout le code de la partie enterprise est en open source. C'est juste que si on paye pas la licence, on n'a pas le droit d'utiliser ce morceau-là. J'imagine qu'il doit y avoir des clés de licence à rentrer quelque part, et puis ça doit pouvoir être facilement générable, puisque de toute façon, la partie est open source. Mais encore une fois, c'est une question. Enfin, cette partie-là, c'est vraiment une question de confiance. Et si on est une grosse entreprise et qu'on a les moyens de passer du temps à essayer de craquer le logiciel, ça vaut peut-être le coup de passer du temps à négocier avec les sales pour avoir un tarif plus intéressant. Et puis voilà. Et une entreprise, elle préférera toujours négocier le tarif. Et si vous allez la voir en lui disant, voilà, moi j'ai beaucoup de serveurs parce que je gère ma scalabilité comme ça, patati patata. Est-ce que vous pouvez me faire un prix? Bien sûr qu'ils vont discuter avec vous. Alors peut-être qu'à la fin, ça sera non. Mais si vous ne leur demandez pas, c'est sûr que ça sera non. Mais essayez de discuter avec les sales, vous aurez forcément des trucs. Moi, dans ma boîte, on a plein de clients qui viennent nous voir en nous disant, j'ai pas les moyens. Et on discute avec eux sur de quelles fonctions ils ont besoin, de quel niveau de support ils ont besoin, etc. Et tous discutent. Après, à un moment donné, on ne va pas te donner le produit non plus. Quand vous allez chez un concessionnaire pour acheter une voiture, vous ne lui dites pas « mon budget, c'est 10 euros ». Vous pouvez lui dire, mais vous allez repartir sans voiture. Voilà.
Tu veux rajouter un dernier truc, René?
C'est trouver le bon business model. Et après, je pense que... il n'y a pas un seul business model qui fonctionne, ça dépend du type d'application, ça dépend de plein de trucs en fait, et c'est vraiment difficile. Et effectivement, c'est pour moi quelque part, il y a aussi une responsabilité des utilisateurs. Voilà, si on, alors c'est facile à dire, hein, mais voilà, si quand je dis utilisateur, je cite plutôt des entreprises quand même assez conséquentes qui voit le logiciel, on va dire, open source comme vraiment le fait qu'il n'y ait pas de coût associé dans l'absolu, et du coup, qui, entre guillemets, scie un peu la branche sur laquelle ils sont assis ou ils investissent. Et voilà, je pense qu'il y a une grosse part d'éducation et par rapport à ça. Après, je suis peut-être un peu naïf.
Bon, merci. Je vais pas remettre de pièces dans la machine. En tout cas, tu l'auras compris, chère auditrice, auditeur, qu'il y a un fork. On n'en a peut-être pas assez parlé. Nicolas veut intervenir encore.
Ah. Mais je te laisse terminer si je peux conclure.
Ah, mais j'allais conclure, moi. Ben, je vais parler du fork. Donc, il y a un fork qui s'appelle OpenTF qui a été lancé. Et on ne sait pas comment il va s'appeler à l'avenir, puisque aujourd'hui, il y a une issue qui parle justement de la trademark Terraform, que ça appartient pas à OpenTF, ça se comprend bien. Donc, peut-être qu'il y aura un nouveau nom, peut-être Terrafork, qui est un des noms que j'aime beaucoup, et qu'il faudra essayer OpenTF. Le truc, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des forks de ce type-là, on sait ce que ça donne. Il y a des nouvelles fonctionnalités d'un côté et de l'autre, et du coup, à un moment donné, les solutions deviennent divergentes. Donc, à voir. Allez, Nicolas, clôture, et on passe au sujet suivant.
Je voulais clôturer sur un truc, c'est vous vous posez bien la question, c'est il n'y a rien de gratuit dans la vie. Un dicton qu'on entend beaucoup, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, si vous voulez pas voir apparaître plein de trucs en SaaS, et si vous voulez pouvoir continuer à gérer vos trucs, trouvez une solution pour financer les produits que vous utilisez.
Exactement. Merci. Bon, alors, tu l'auras compris, un podcast, c'est difficile à faire vivre, c'est difficile à faire découvrir. Je parle pas évidemment du podcast vidéo sur YouTube, mais bien du podcast que tu écoutes dans tes applications de podcast préférées. Donc, ce podcast, il est en licence libre, lui, et a priori, il n'y a pas de raison que ça change. Donc, tu peux le prendre, le découper, le diffuser par morceau ou intégralement. Tu peux l'utiliser pour tes cours. Je sais qu'il y en a qui potentiellement le font. Mais surtout, tu peux l'envoyer à tes collègues pour leur faire découvrir ce formidable podcast que tu écoutes et que tu adores. Bref, t'auras compris, partage le podcast, ça nous aidera dans tous les cas. Donc, on a atteint le fameux point que tout le monde attend, les outils que Radio DevOps conseille. Alors, comme on parlait de Terraform à l'instant, je crois que c'est Nico qui l'a mis, on va parler d'un outil Terraform.
Ouais, j'ai découvert ça pendant mes vacances, c'est Terraform UI. Donc en gros, c'est alors c'est marrant parce qu'en plus c'est développé en Python alors que Terraform est développé en Go, et ça vous permet d'avoir une visualisation un petit peu plus sympa de vos TF state. Donc le TF state, c'est l'état dans lequel est votre infrastructure. C'est un fichier JSON. Je vous déconseille de le manipuler, mais si vous voulez savoir comment, vous pouvez aller voir mon GitHub. J'ai quelques scripts qui permettent de le faire. Et ce truc-là permet de visualiser le TF state dans une petite GUI toute simple. C'est type curses. J'ai essayé, c'est assez marrant, c'est plutôt sympa. Et si vous voulez visualiser le contenu de votre TF state autrement qu'avec les outils fournis directement par Terraform, parce que si vous ne connaissez pas, vous avez Terraform Graph qui vous permet de faire un graph DIA de vos ressources. Si vous avez un plan Terraform avec des centaines de machines, je vous déconseille d'essayer de regarder ça, mais TFUI permet d'avoir une petite visu de vos TF state autrement qu'en JSON. Voilà.
Merci Nicolas, je dois t'avouer que j'avais utilisé Graph, le Graph au tout début avec les premières versions de Terraform, j'ai vite abandonné l'idée parce que je trouvais ça intorchable. En tout cas, j'aime beaucoup la présentation parce que justement, moi j'en ai ouvert des fichiers TF state pour les modifier parce que parfois je tombais sur des bugs d'API et je devais modifier certains identifiants. Et j'avoue que c'est assez assez sympa puisqu'il y a une sorte d'arbre comme un tree, comme si on utilise, quand on utilise tree sous Linux, mais surtout d'après ce que je vois dans la démo, tu as le code Terraform valorisé avec les valeurs de ton état, et ça c'est bien, je trouve. Allez René, je te passe la parole.
J'ai sur TFT8 pas grand chose à dire, ça a l'air sympa.
Bon bah alors embraye sur ton outil alors.
Alors oui, petit outil que j'ai découvert en écoutant le podcast No Limit Sécu. Ça s'appelle SemGrep et à première vue ça fait de l'analyse statique de code pour tout un tas de langages. Donc de manière à révéler un petit peu les malfaçons ou potentiel, et je crois que c'est écrit en Python et j'ai testé, c'est plutôt ça a l'air assez sympa, ça donc voilà, c'est pour moi ça c'est un outil en alternative, par exemple, enfin je connaissais pas d'autres outils de ce type là à part Sonar en open source bien sûr, donc du coup je pense que c'est soit une alternative soit un complément qui a l'air intéressant, et donc il y a une société qui édite ce produit avec donc une base en open source, et puis après ils ont fait tout un tas de services au-dessus de type cloud etc, mais voilà, je vous engage à aller écouter le podcast No Limits Secu pour en savoir plus et puis à tester, voilà.
Alors moi je connaissais parce que GitLab utilise SemGrep comme outil d'analyse statique de code, notamment pour JavaScript et Python, TypeScript et d'autres. Et donc comme je lis les release notes régulièrement, je vois souvent arriver SemGrep dans les mises à jour de SAST. Mais je ne l'ai jamais utilisé par contre. Et toi Nicolas, est-ce que c'est un outil que tu as déjà utilisé ?
Pas du tout, mais j'ai écouté l'épisode de Nos Limites Sécu qui était très intéressant et je vous recommande d'écouter Nos Limites Sécu de manière générale.
Eh ben, on va mettre le lien dans la description, ça sera fait comme ça. Moi, je vais vous parler, je crois que c'est moi, oui, c'est ça, je vais vous parler de QSV. Alors, QSV, ça se prononce Quicksilver. Donc, Quicksilver, comme le héros Marvel et DC, parce qu'il y a un Quicksilver dans les deux univers. Donc, Quicksilver, c'est un programme en ligne de commande qui permet de faire plein de choses. Il permet d'interroger, d'indexer, de découper, d'analyser, de filtrer, d'enrichir, de transformer, de trier, de valider ou de joindre des fichiers CSV. Bref, si tu aimes les fichiers CSV, donc les fichiers séparateurs à point virgule, qu'on utilise beaucoup avant l'avènement du JSON, on l'utilise encore, ça n'a pas changé puisque c'est quand même moins verbeux que le JSON, et ben Quicksilver va pouvoir te permettre de faire pas mal de choses et de l'intégrer dans tes shell scripts notamment. Les commandes sont a priori assez simples, elles sont rapides et elles sont composables, ça veut dire qu'il y a plein d'arguments que tu peux ajouter ou enlever, etc. Et surtout, comme c'est écrit en Rust, ça va faire plaisir à René.
Oui, je crois que je l'avais déjà mentionné dans un épisode précédent, mais je suis pas sûr, ou alors c'est un outil qui ressemble beaucoup.
Peut-être.
Mais c'est pas grave.
Peut-être.
Ça permet de refaire une deuxième passe.
C'est bon de rappeler, en effet, de toute façon, ça arrivera toujours qu'on rementionne un outil qu'on a déjà mentionné. Nicolas, tu as utilisé Quicksilver ou tu utilises peut-être pas des fichiers CSV ?
Alors, j'utilise beaucoup de fichiers CSV que je manipule avec du set, du hawk ou du python, mais du coup, je vais peut-être regarder ça parce que ça me fera peut-être moins mal à la tête certaines fois.
Ça serait pas mal, ouais.
C'est vrai que parfois, c'est pénible. Eh ben écoute, René, tu as un autre outil à nous partager.
Oh, c'est pas un outil, un tout petit lien qui est en fait une cheat sheet pour qui donne la correspondance entre les différents, alors un truc assez classique, mais entre les différents services cloud disponibles chez AWS, Google, Azure et Oracle. Et voilà, c'est rien d'exceptionnel, mais je pense que ça peut être utile pour les gens qui travaillent sur des environnements multi-cloud. Des fois de retrouver les noms, etc., et de trouver les potentielles correspondances de services.
Bon, c'est pas moi qui vais réagir là-dessus puisque j'utilise aucune de ces plateformes. Nicolas, toi ?
Bah, c'est pas mal parce que ça va permettre à des pros AWS de discuter avec des pros Azure et la même chose avec Google et Oracle Cloud. D'ailleurs, c'est marrant qu'il y aura Cloud. Je ne pensais pas que ça existait encore. Mais... Pardon. Mais ouais, c'est intéressant d'avoir une pierre de rosette que tout le monde puisse discuter comme ça. Pardon.
Nicolas est en train de s'étouffer, le pauvre. De toute façon, moi, ce que je peux dire, c'est que les antisèches, c'est toujours bien, quelle que soit la technologie. Surtout si c'est des choses qui sont écrites et pondues par des gens qui ont de l'expérience et qui permettent justement de délaguer tout ce qui est inutile ou moins fréquent. J'ai vu beaucoup, moi, d'antisèches écrites par des Américains qui sont exhaustives. Et je trouve que c'est pas le rôle d'une antisèche d'être exhaustive. Le rôle d'une antisèche, c'est d'être pratique. Je sais pas si c'est le cas de celle-là, mais en tout cas, je donne mon avis en tant que créateur d'antisèche. C'est pour ça que dans les miennes, il n'y a pas tout et on trouvera jamais tout ce qu'on peut faire. Sinon, il y a la doc. L'antisèche, c'est vraiment pour nous aider au quotidien et c'est toujours bien. Je me souviens de ma première antisèche. C'était une antisèche VI qui tenait sur une feuille A4 avec une sorte de grande croix avec toutes les commandes VI. Je sais pas si vous l'avez eu celle-là. Je sais pas si elle existe encore, je pense que oui. Mais c'est mon début avec les antisèches, c'était ça. Enfin, les antisèches informatiques en tout cas.
Je pense que c'est très intéressant à se garder sous le coude le jour où vous en avez besoin.
Bon, eh bien, je vais clôturer avec un outil qui n'en est pas vraiment un petit. On parle beaucoup d'écologie sur ce podcast et je voulais vous parler de Cloud Carbon Footprint. Donc Cloud Carbon Footprint, c'est un des outils de mesure qui permet justement d'analyser les émissions de carbone dans le cloud pour justement comprendre l'impact de notre utilisation qu'on fait du cloud sur l'environnement planétaire. Donc Carbon Footprint a en plus un intérêt, c'est qu'il vous propose peut-être des solutions pour remédier à certaines utilisations. Donc, à mon grand désarroi, pour le moment, c'est que pour Amazon Web Services, Azure et Google Cloud Platform et les solutions on-prem. Alors, je comprends parfaitement parce que c'est les fournisseurs cloud les plus utilisés, donc faut bien commencer par eux. Donc, je voulais en parler. Je salue au passage... j'ai oublié. Benoît, qui travaille sur Hublot, qui est une autre solution. Et plus on aura de solutions de ce type-là, mieux ce sera, selon moi. Est-ce que vous connaissiez Cloud Carbon Footprint? C'est dur à dire. Non.
Je l'avais vu passer, mais bon, bah forcément, moi, comme je fais de l'OVH, je suis limité aussi. Donc, du coup, j'avais pas creusé beaucoup plus et j'ai toujours pas eu le temps de déployer Hublot. Donc,
oh, je crois qu'on a le même souci, René, de ton côté.
Bon, j'avais pas entendu parler et je serais assez curieux de savoir comment ils font. Mais
moi, voilà, moi, parce que moi aussi.
Pour avoir travaillé avec Benoît, c'était quand même pas un sujet vraiment évident d'avoir ces infos-là. Donc.
Eh ben, Benoît, si tu nous écoutes, n'hésite pas à repasser sur le podcast. Je vais de toute façon te faire un ping sur le forum. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Donc, viens discuter avec nous sur le forum de la communauté des compagnons du DevOps. Tu verras, on est plein, puisqu'on a dépassé les 1500 depuis un petit moment. Tu pourras discuter de plein de sujets. Il y a des nouveaux et des nouvelles qui arrivent tous les jours. C'est l'effervescence en ce moment. En plus, c'est la rentrée. Donc, si tu veux un endroit sympa pour discuter, le forum, c'est ton ami. Tu verras, on y est tous les trois et on est plutôt actifs. Moi, un peu moins en ce moment, mais voilà. Donc, je vais laisser à René le mot de la fin.
Eh ben, j'espère que l'épisode vous intéressera et que vous l'apprécierez. Et puis, ben, je vous donne rendez-vous au prochain épisode.
Exactement. Et Nicolas, tu as le mot de la fin de la fin.
Eh ben, financer les projets open source pour qu'ils puissent vous sortir des nouveaux patchs pour vos super CVE que vous allez patcher dans la foulée.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.